cette différence d'enjeu et de rapport à la compétition. On le voit pas mal quand les seules fois on fait de la compète, on s'est inscrit à la FSGT ou en flag, ou alors on fait aussi du foot aussi à côté. Et du coup, c'est des moments où on a un rapport avec d'autres équipes, du coup, qui jouent différemment. Et on le voit très bien qu'en fait, bah, nous, l'aspect compétition, on le prend pas en sérieux ou peu. C'est juste, pour nous, c'est une excuse de jouer avec d'autres gens et de jouer ensemble. Et en fait, il y a plein de fois où notre rapport à la compète, il a posé problème aux autres équipes. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on gagne ou qu'on perde, bah, on a à peu près la même gueule et on dit des conneries la plupart du temps. Ça arrivait à beaucoup de clash à des moments donnés parce que bah, ah bah, cette fois-ci, on a gagné. Là, je pense surtout au foot, mais ça arrivait aussi pas mal au flag. Cette fois-ci, on a gagné et du coup, notre manque de sérieux, bah, ça les fait chier parce qu'ils sont en train de perdre. Et là, on voit qu'en fait, eux, ils sont restés dans un rapport à la compétition depuis qu'ils sont tout petits. Là, c'est des trentenaires, des quarantenaires. Et pour eux, rigoler pendant un match, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Quand c'est nous qui perdons, je veux dire, tout va bien, tu vois. Oh, ils voient une équipe rigolard, ils sont fair play. Et quand on gagne et qu'on a exactement le même comportement, là, ils voient un manque de respect total. Et c'est arrivé au moins à certains moments, quoi. Vraiment, il y a des. Bah, à la FSGT, par exemple, c'est arrivé au clash avec des équipes. On n'a pas poussé pour recommencer ce genre de compétition, quoi.
Se faire battre par l'Olympique de Bourassa, je comprends que ça puisse. L'équipe de branque que c'est, ça doit être frustrant quand même.
On est bon, on est
on
bon.
A gagné la consolante.
Il y a un palmarès, quelque chose, c'est écrit quelque part, c'est répertorié.
Ah, pour le foot, on a un classement, c'est très sérieux. Pour le rugby, là, on n'est plus dans la compétition parce que bah, apparemment, elle n'existe plus. Mais...
Ah, en flag, on était dans les premières équipes. Hein,
on a ramené la coupe à la maison il y a 2 ans.
Ouais,
même pas la compète, mais on a bien la coupe. Voilà, c'est comme ça.
Pour ajouter un dernier truc par rapport au genre de ta question initiale, juste, il y a un truc qui revient quand même beaucoup aussi, c'est, moi en tout cas ça m'est souvent arrivé, je sais pas vous, mais quand je dis que je fais du rugby mixte, on me dit mais comment tu fais pour plaquer des gars beaucoup plus larges que toi, quoi. Et c'est quand même impressionnant comment c'est ça qui revient tout le temps, et ça me fait tellement rire qu'on me demande comment je fais pour plaquer, bon moi j'y arrive pas trop, hein, mais je suis pas un exemple, pour plaquer des gars plus larges que moi, alors qu'en fait le principe du rugby quand même c'est que des fois t'es une brindille qui se retrouve face à quelqu'un qui a beaucoup plus de masse musculaire que toi, que ce soit un garçon ou une fille en face en fait, enfin... Je trouve que c'est quand même principalement ce sport-là qui te met en confrontation avec quelqu'un qui a... Je veux dire, à la boxe, de ce que j'ai compris, je pratique pas trop, mais on différencie les poids des gens en compétition. Au rugby, c'est pas le cas. Bon, on n'est pas dans la mêlée quand on est une brindille, mais tu peux te retrouver face à une première ligne et tu dois le plaquer. Et je voulais juste dire ça à l'intention peut-être des personnes à identité féminine qui nous écoutent. Ben, en fait, c'est quand même la psychologie qui joue beaucoup, je pense, dans plaquer quelqu'un assigné homme devant toi. D'office, tu te disqualifies au moins de moitié en te disant que tu vas pas pouvoir le faire, quoi. Alors même que, en fait, peut-être cette personne, elle fait le même poids ou la même masse musculaire qu'une personne féminine que t'as déjà plaquée, quoi.
Ouais, je rebondis tout de suite. C'est vrai que c'est Manon qui a fait un gros boulot, qui a fait un podcast qui s'appelle « C'est pas demain la veille », justement sur la dimension genrée du rugby.
Mais ce qui se joue dans le rugby mixte, en tout cas pour moi, c'est quand je fais un plaquage, je suis pas seulement en train de faire un plaquage, je suis en train de tester si vraiment c'est vrai que deux corps masculins et féminins se valent en force. Ma volonté de plaquer la personne en face, elle se résume pas à empêcher l'attaque. Pour moi, c'est si j'y arrive, c'est un truc de fou en termes des capacités des femmes par rapport aux hommes, d'égalité dans le sport en fait. Je suis frustrée quand j'y arrive pas, mais pas que parce que j'ai mal défendu, mais parce que ça remet en cause ma vision, parce que je suis convaincue que les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble au rugby, et du coup j'ai envie de le prouver en y arrivant, quoi.
Bah ouais, moi ça me parlait trop quand t'as dit ça, enfin, j'étais trop d'accord. D'ailleurs mercredi quand j'ai plaqué Franck, j'avais envie que tout le monde l'ait vu, parce que c'est quand même tellement mythique et suffisamment rare pour que j'ai envie que ce soit filmé, tu vois, et que je sois une star, ça y est, parce que j'ai plaqué Franck, quoi. Mais ouais, je comprends trop ce qu'elle veut dire, Gab, et même il y a ce quota, maintenant on est quand même plusieurs personnes assignées femmes dans l'équipe, mais à une époque où on n'était quand même pas beaucoup, voire très peu, et quand t'es la seule fille sur le terrain et que t'as l'impression que tes compétences c'est les moins hautes, et que tu te chies, quoi, en fait, que tu te loupes, que t'arrives pas à faire ton plaquage au milieu de tout le monde, t'as l'impression de porter en plus de ton échec ton genre. et c'est un enfer. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. J'ai l'impression de représenter mon genre. Et au foot, quand je suis la seule femme, bah, si je suis pas douée, je me dis aïe aïe aïe, ils vont se dire ah ben voilà, il y avait une fille dans l'équipe d'en face, et bien sûr, elle était pas douée, elle savait pas dribbler, quoi.
Ça passe pas mal, je pense, par l'apprentissage, quoi. Comme on part du principe qu'on va pas mettre en concurrence les joueurs et les joueuses, en fait, une fois qu'on a accepté ça, la manière dont on fait les entraînements, on va faire en sorte que tout le monde ait les billes pour se sentir apte dans toutes les situations possibles. Et du coup, en fait, à partir de là, la manière dont tu progresses, enfin, quel que soit ton genre, tu peux réussir en fait à faire les mêmes choses. Et après, bien sûr, enfin, je pense que personne n'y échappe, mais en fait, ouais, les blocages viennent principalement de ce qu'on t'a inculqué, en fait, bah, qu'est-ce que c'est être une meuf dans un sport co. Tout le monde a des expériences très médiocres en EPS, en vrai, on va pas se mentir. Enfin... Et en fait, ouais, pour réussir à dépasser ça, faut l'avoir mis à plat et après, ça peut le faire, quoi. Mais par exemple, là, on essaie de draguer un peu d'autres équipes de rugby loisirs sur Toulouse. Et ben voilà, quoi, c'est pas facile. Bon, déjà parce que du coup, quand les équipes elles sont inscrites à la FFR, bah, c'est interdit après 15 ans de jouer en mixité. Et du coup, quand on arrive à arriver un peu de l'intérieur pour récupérer des joueuses ou des joueurs qui veulent jouer avec nous, ben, ben, y a forcément les représentations. Du coup, c'est marrant. On nous demande d'abord de faire des entraînements en commun pour bah, s'apprivoiser, voir comment ça se passe, pour ensuite passer sur de l'opposition. Et dans la tête de la brique, c'est d'accord, mais enfin, nous, ça nous irait de jouer directement, entre guillemets. Du coup, voilà, c'est vachement, ça se passe vachement dans la tête des gens, quoi.
Et le travail que tu fais, tu le situes où ? C'est un travail d'archives, de sociologique, de compréhension juste du fonctionnement de votre club ?
Bah non, c'est que je crois qu'à un moment, je me suis demandé, parce que moi, j'ai toujours été un peu dans le rugby, de par la famille, là où j'habitais, etc. Et j'avais jamais pris conscience que bah, faire du rugby en étant une meuf, en fait, c'était pas si commun que ça. Moi, j'ai un peu fait du rugby comme ça, comme les petits garçons font du foot, les petites filles, elles font de la danse. C'est juste que c'était le sport de ma famille. Et arrivé à l'âge adulte, je voyais que bah, ça pouvait poser question. Et moi, je le valorisais pas tant que ça, quoi. Genre, en plus, j'ai plutôt évolué dans un milieu culturel où bah, c'est plus stylé de faire bah, de la danse, du théâtre, du chant. Du coup, en gros, ouais, je disais pas systématiquement que je faisais du rugby. Et à un moment, de par ma construction politique personnelle, j'ai un peu capté les enjeux de la mixité à la brique, mais quand je suis arrivée, je les avais pas du tout, quoi. Je suis pas arrivée à la brique en me disant « Oh, trop bien, une équipe qui fait du rugby en mixité. » Non, non, c'était plutôt « Oh, trop bien, c'est pas un club. » va pas avoir un coach autoritaire qui met en concurrence les joueurs et les joueuses et qui va me faire rester sur le banc si j'arrive pas à faire une croisée redoublée, voilà. Ouais, après, je pense que ouais, ça fait un peu son bout de chemin, parce qu'en gros, quand je jouais en moins de 15 en mixité, c'était hyper discriminant. En gros, le coach, on était deux meufs, on était en temps de match, il nous faisait jouer les 10 dernières minutes, quoi. Enfin, on passait vraiment tout le temps, tout le reste du match sur le terrain, et c'était en mode, quand les joueurs étaient vraiment fatigués, ils nous faisaient rentrer au dernier moment. Après, ça se passe comme ça en équipe classique aussi, quoi. Mais du coup, ben, c'est dur après, quand t'as joué en mixité, et que du coup, t'as eu vraiment il y a eu des comportements très discriminants sur être une meuf dans une équipe de gars, d'arriver à, fait, à prendre confiance en son jeu, en les autres aussi. Ne pas se dévaloriser par soi-même.
La mixité trop jeune, mal faite, dégoûte les gens de jouer en mixité, quoi.
Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il y a des groupes en non-mixité, en fait. C'est que la mixité pas réfléchie, ça peut être hyper, hyper violent, hyper dangereux aussi, quoi. En ce moment, la FFR est en train de réfléchir sur oui ou non la mixité dans les équipes. Et du coup, ils ont sorti un... Genre, ils ont tapé, c'est hyper drôle, parce que ça fait vraiment les gens des entreprises qui passent des semaines à chercher des slogans tout nazes. Bah là, c'est vraiment pareil, genre. Ils ont travaillé, du coup, sur une annexe pour réfléchir sur la mixité dans le sport. Et du coup, est sorti que, OK, la mixité dans le cadre du plaqué, si, du coup, dans un vis-à-vis... En gros, t'as le droit de plaquer ton vis-à-vis du même sexe, Donc deux meufs peuvent se plaquer entre elles, deux mecs peuvent se plaquer entre elles. Mais du coup, si ton vis-à-vis est un mec et une meuf, et ben du coup là, on passe sur un toucher deux secondes et tu renvoies la balle, quoi. Enfin, du coup, c'est encore... Enfin, c'est vraiment... Mais trop de la merde, quoi.
C'est trop pire. Galère aussi. Enfin, moi, j'arrive pas du tout à imaginer le truc.
C'est marrant, je pense, pendant deux jours, il y a eu un message genre « Ça y est, la FFR a accepté la mixité et tout. » Mais on s'est posé la question, mais est-ce qu'on va continuer à exister, quoi? Est-ce que tout notre boulot, en fait, est pas vain? Est-ce que ça y est, on est institutionnalisé? Ça y est, est-ce qu'on est has-been? Et puis après, quelqu'un qui a envoyé l'article, on a fait « Ouais, non, ça va, il y a encore du travail. »
Et ce qui est très drôle, c'est que pour arriver à ça, ils ont mis en place une expérimentation. Donc, ils ont recruté 20 personnes, 10 mecs, 10 filles, pour essayer de se rendre compte par eux-mêmes, est-ce que c'est vraiment possible que des gens de sexe différent puissent se plaquer ou pas. Ils ont fait ça, et un an après, donc, ils sont arrivés sur ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces 20 personnes, mais visiblement, d'après eux, ils ne peuvent pas se plaquer, quoi.
Ils auraient dû nous demander, ouais, en fait, de l'aide.
Vous avez envoyé le livret, non, à la FFR.
Je pense qu'on est trop fermé, c'est ça le problème. Sinon, ils nous auraient appelé.
Ah, c'est les gauchistes, ça, de toute façon, tous les mêmes.
Et je voulais connaître votre avis sur la réintégration dans leur équipe respective de rugbyman accusés de viol en Argentine, Hugo Oradou et Oscar Jégou. Quitte à se mettre bien avec la FFR, c'est maintenant, quoi.
Ah, oh, bah on est carrément d'accord avec ça. Hein. On aurait fait pareil, hein. Ben, non. On va arrêter la blague, là. Ouais.
Moi, je pense que c'est symptomatique de quelque chose qui est caché d'habitude et que là, on voit au grand jour. Il y a eu ces dernières années des révélations en mode oh là là, il y a des violences sexuelles et plein d'autres choses psychologiques et tout dans le rugby professionnel. Donc là, c'est sorti. Mais faut pas croire, pour avoir joué beaucoup en rugby amateur, c'est la même chose. C'est beaucoup, beaucoup de scènes racontées, d'agressions sexuelles, de trucs comme ça, très, très banalisés. Et je trouve ça assez marrant et hypocrite de ce que les instances s'en offusquent maintenant, alors qu'il y a forcément plein d'histoires qui sont sorties depuis un bout de temps sur le sujet, et que maintenant ça sorte au grand jour. Mais le fait que les joueurs soient réintégrés, c'est pas si étonnant que ça, quoi. C'est pour moi la logique de cette institution qui, en fait, n'a pas vraiment de problème avec ce genre de soucis.
Moi, mon papa, il m'a dit, s'il entend ça, après, il va me tuer, mais bizarre et tout, quand même, cette histoire, il s'est attardé sur, je sais pas, enfin, des détails, en fait, de l'histoire pour essayer de ne pas y croire, en fait, quoi. Parce que je pense que ça dérange, vraiment, ça dérange ce genre de révélation. Et en plus, comme on starifie les gens, enfin, demain, si Dupont, il est accusé de viol... On sera bien. ça sera quand même dommage un petit peu pour l'équipe de France, quoi. Et comment on va faire avec ça, en fait?
Ouais, enfin, il y a une culture du viol très 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 présente dans le rugby, donc enfin, en soi, c'est même dommage que le cas des deux joueurs, ça a pas permis d'amorcer un vrai travail sur les violences sexistes et sexuelles dans le secteur, quoi, au lieu d'étouffer comme ça a été fait.
Le troisième ligne français du Stade Rochelet, toujours accusé de viol, mis en examen avec son coéquipier du 15 de France, Hugo Oradou. Pour rappel, soupçonné d'avoir agressé et violé une jeune femme en Argentine, dans leur chambre d'hôtel, en pleine tournée. C'était avec l'équipe de France en Amérique du Sud. Et donc, en attendant qu'il soit innocenté ou pas par la justice argentine, eh bien, Oscar Jégou a donc été ovationné par son public samedi soir à La Rochelle. On l'entend, hein, Jégou tombe des tripes. Beaucoup, beaucoup se sont indignés, non seulement qu'il puisse rejouer, hein, comme Hugo Oradou dès le début octobre, mais qu'il soit surtout acclamé. La honte, très dérangeant et malvenue, peut-on lire.
Il y a un chapitre dans le livret qui parle de ça, quoi.
Après, nous, c'est la partie la moins aboutie, quoi.
Bah, c'est en tout cas la partie qui est en perpétuelle construction, quand même. C'est normal aussi, je pense qu'on n'a jamais fini de se questionner dessus.
Enfin, on est un club mixte, donc forcément, nous, on n'est pas non plus parler de ces deux rugbyman, mais... Mais en fait, les violences sexistes et sexuelles, ça touche toute la société, ça touche tous les milieux sociaux, il y en a partout. Donc oui, effectivement, on peut dénoncer ces deux rugbyman, mais en fait, il faut pas, on peut les présenter comme des monstres, mais en fait, c'est un problème, c'est un problème général, hein, c'est très très profond. Et parfois, dans certains milieux, enfin dans les milieux politiques de gauche et d'extrême gauche, il y a des violences sexistes et sexuelles, malheureusement. Et faut... Donc nous, on essaye d'être vigilants par rapport à ça, vigilantes. Et c'est pour ça qu'on en a parlé dans la brochure.
Enfin, à la Brique, il y a eu aussi des cas de violences sexistes et sexuelles. Il y a eu des personnes qui ont été exclues pour ça. Voilà, c'est aussi un truc. Quand on dit qu'on travaille le sujet, c'est, ça arrive aussi à la Brique et c'est au cœur de nos préoccupations. Quoi.
Ben, on a écrit dans la brochure un chapitre là-dessus, mais quand on disait que c'était le moins abouti, c'est qu'en fait. Les personnes qui ont été exclues, elles ont été faites de telle manière. C'était il y a quelques années. Et ben, faut encore qu'on retravaille ce projet parce qu'on a évolué. Je pense qu'on referait pas la même manière ce qu'on a fait avant. Et c'est un truc qui, dans tous les milieux de gauche et dans tous les groupes, du moment qu'il y a la mixité, il y aura ça aussi à travailler. On essaie de le travailler, mais on n'a pas plus travaillé que plein de groupes de gauche et on essaie d'avancer là-dessus.
Aussi, on parle beaucoup de ces deux rugbyman, enfin des gens. On pointe pas mal quand même les hommes qui font des violences sexuelles. Mais finalement, est-ce que ces deux rugbymen, ils n'ont pas chanté la boiteuse sous la douche pendant 10 ans comme tant d'hommes qui font du rugby jeune? Est-ce qu'on leur a pas appris aussi à faire que la culture du viol soit partie intégrante de leur éducation sportive et de la éducation tout court, quoi?
Quand la boiteuse s'en va au rugby, quand la boiteuse s'en va au rugby, elle n'y va jamais sans son demi, elle n'y va jamais sans son demi.
Qui peut rejoindre le club? Il n'y a pas de critères d'âge, de genre, de niveau.
Tu peux pas être flic.
Tu peux pas être de Fontaine Lestan.
C'est pas marqué, mais je pense.
Ah bah moi je le dis. Allez, venez les flics, venez, on va rigoler.
On va pas rajouter des règles comme ça.
Oui, tout le monde peut venir. On peut accueillir ponctuellement des enfants, mais on le fera pas. Je pense pas qu'on le fera de manière permanente dans notre équipe.
Tant qu'on n'a pas l'école de rugby.
Voilà, tant qu'il n'y a pas d'école de rugby. Après, des fois, il y a des petits qui viennent jouer avec nous, ils s'entraînent un petit peu, mais voilà. Donc faut être à peu près majeur pour venir, et après sur l'âge, il y a des gens qui ont un âge tout à fait honorable, qui font partie de la Brique et qui s'entraînent et qui jouent avec nous, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, tout le monde est bienvenu, même si t'as pas de thunes aussi, c'est pareil, enfin, surtout si t'as pas de thunes, en fait on veut pas trop des gens trop riches non plus.
On n'est pas adapté quoi, par contre, enfin genre il y a que des... On peut pas accueillir des gens en situation de handicap, j'ai l'impression, mais...
Et vous faites donc des accueils régulièrement?
Tous les premiers dimanches du mois, on a un entraînement d'accueil. Et on essaye, en règle générale, d'adapter tel entraînement.
C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place parce que en fait, faire de l'accueil permanent, ça permet pas au groupe de se souder, d'avancer, que ce soit techniquement ou même... de passer tout son temps juste à dire on accueille tout le monde, on est 100% inclusif et du coup on accueille tout le temps. Mais en fait, c'est pas possible, il faut se donner les moyens d'accueillir correctement. Et le faire une fois par mois correctement en expliquant bien tous les gestes en repartant de zéro, ça permet d'inclure des gens, quel que soit leur niveau justement, quel que soit leur histoire avec le rugby. Et du coup, pour le faire bien, on peut pas le faire systématiquement. Et du coup, on a trouvé la solution de le faire tous les premiers dimanches du mois, un passe-pouvillon 31 500 Toulouse.
Mais si tu viens le premier dimanche du mois et que tu as trop de courbatures, tu peux revenir que le premier dimanche du prochain mois. T'auras fait deux entraînements d'accueil et tu seras au point, quoi.
En général, on essaye de faire un entraînement sur deux. Un plaqué et un en touché. Parce qu'après, on s'adapte. Hein, on joue dans un parc et des fois, il fait trop sec. Donc, on joue presque sur du béton. Donc, on peut pas plaquer. Donc, on fait que du touché.
Dans l'esprit, sur le plaqué ou le touché, enfin... L'année dernière, on faisait du flag à la FSGT, comme on disait tout à l'heure. Mais même le but c'est de la Brique, c'est de faire du rugby plaqué, de promouvoir le rugby plaqué en mixité. Donc on fait du toucher pour soit par des contraintes techniques, soit des contraintes pédagogiques aussi, où c'est plus facile d'apprendre certains gestes en toucher, les règles du rugby notamment. Mais l'objectif de la Brique, c'est de pratiquer le contact, le plaquage en mixité. Donc on va toujours garder cet aspect-là dans l'équipe.
Je pense que les gens qui viennent ne viennent pas par hasard. C'est écrit peut-être dans votre charte que le jeu prime sur la compétition, puis ça a été évoqué tout à l'heure. Mais alors, le sport sans compétition, l'esprit du jeu et du plaisir, mais ça, c'est clair, c'est un truc de gauchiste. Donc, je pense que les gens qui viennent savent qu'on peut arriver à définir l'esprit du beau jeu. Alors, j'imagine c'est lié au plaisir, la convivialité. Et si l'adversité est encore possible sans notion de recherche de victoire?
L'adversité, elle est possible. flexible de ouf. Hein. tu peux avoir envie de te mesurer à la personne d'en face sans pour autant compter les essais, par exemple. Par exemple, à l'entraînement, on compte pas les essais, et même au match, en fait, on compte pas forcément les essais, quoi.
Moi, je les compte.
moi, par exemple, là, j'ai mes camarades qui sont là, je vais jouer contre eux demain, donc mon objectif d'aujourd'hui, c'est de les faire boire le plus possible pour qu'ils soient pas en forme.
Pour les
demain,
courbatures.
Quoi. Donc, il y a quand même une forme de compétition qui reste.
Enfin, pour moi, c'est peu pratiquer un jeu, du coup, physique, ou un sport, je mets des guillemets, mais. Parce que là, entre jeu, il y a un problème de définition entre sport et jeu. Mais quand on fait du jeu de société, on va pas, on n'est pas l'ennemi numéro un de la personne qui joue en face de soi. Pourtant, on joue. Ouais, ça dépend du jeu de société. Mais normalement, voilà, on joue à un jeu. On va jouer au maximum de nos capacités pour gagner ce jeu selon les règles établies. Et après, on va dire, ah bah, bien joué, c'était cool. Et je comprends pas pourquoi dans un jeu physique. On va pas établir les mêmes choses. En fait, on fait exactement la même chose. Nous, on est sur le terrain. On veut gagner. On fait notre maximum individuellement ou collectivement pour marquer des essais. Tu vois, on pratique ou des fois on compte autre chose. On compte pas que les essais. Mais même si on compte que les essais, c'est pas grave. On a gagné le jeu. On l'a perdu. Des fois, on peut donner son maximum dans ce cadre-là. C'est juste qu'on a appris à le faire dans un cadre compétitif où en fait tu es censé détruire ton opposant, quoi. Mais en fait, on fait du jeu tout le temps.
Peut-être il y a aussi le truc de quand t'es dans la même équipe, c'est une veille collective à genre pas se plaindre de la personne à côté de toi qui s'est gourée, quoi. Enfin, genre dire « Ah, mais tu m'as pas fait la passe » ou « Ah, mais... » Reporter la faute sur les gens d'à côté du fait que collectivement, ça marche pas. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve qu'on essaie d'éviter comparé à quand t'es en équipe, en club et qu'il y a en plus du coach qui te hurle dessus que t'as pas réussi à faire ce qu'il fallait, tes collègues qui te regardent en mode « Ah ben là, cet essai, c'est ta faute, quoi. »
Après, c'est aussi une manière d'essayer de gagner qui peut changer. C'est-à-dire que là, on pourrait, vu la composition des équipes à la brique, on pourrait avoir un comportement de dire « Bah, j'ai 15 ans de rugby, je suis 3 fois plus costaud que tout le monde. Bah, la manière la plus efficace d'aller marquer, c'est je vais systématiquement tout droit et j'éclate tout le monde. » C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Je pense que les gens qui viennent à la brique vont essayer en fait de jouer d'une manière où vont inclure le plus les autres personnes autour d'elles et d'essayer de pratiquer un jeu qui va de maximiser le plaisir des gens dans l'équipe à ce moment-là, quoi. Et à la fin, ça se conclut par un essai et c'est assez kiffant d'avoir réussi un mouvement collectif et on a réussi à passer, quoi. Et enfin. Inconsciemment, on se l'intègre en fait. On joue différemment. Enfin, pour avoir pratiqué le rugby dans des clubs pendant assez longtemps, en fait, ce qui était intégré, c'est qu'il faut absolument aller marquer, quoi qu'il en coûte. Et ce truc d'essayer de faire des mouvements cool, etc., on l'a intégré, peut-être pas forcément consciemment, mais j'ai l'impression que c'est la manière dont on essaie de pratiquer le jeu, quoi.
Je trouve surtout qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est le côté. En fait, on discute très régulièrement après chaque entraînement, on a des réunions, en fait, on a tout un autour du jeu vraiment sur le terrain et de la compète et des matchs qu'on fait quasiment à chaque entraînement. En fait, on discute beaucoup, donc en fait, tu te rends compte si les gens se sentent bien ou pas dans leur pratique, même si tu veux pas te rendre compte de tout. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui fait la différence du jeu plus que vraiment une vraie envie de faire du beau jeu différemment. En fait, moi, je fais pas ça, je regarde les gens autour de moi et j'essaie de voir s'ils se sentent bien sur le terrain. Et en fait, c'est ça qui fait que ça change. Mais c'est pas. Il me semble que notre boussole, c'est pas on va jouer collectivement, on va se faire des belles passes et tout. Non, on veut tous marquer un essai. Par contre, les gens avec qui est autour de toi, on va discuter après. Et donc, s'ils se sentent pas bien sur le terrain, eh ben, on le sentira et on jouera différemment pour que tout le monde se sente bien à la fin de l'entraînement et la prochaine fois qu'on sera ensemble. Parce qu'en plus, on passe du temps ensemble aussi. Oui, en réunion, mais aussi à côté. Là, on fait de la radio. Big up. Mais voilà, du coup, notre boussole, c'est vraiment ça. C'est, il me semble, en tout cas, c'est que tout le monde se sente bien sur le terrain. Et du coup, ça a des conséquences sur notre jeu et qui n'est pas que l'essai en tête, quoi. Si entre toi et la ligne, il y a quelqu'un qu'il faut écraser et que tu sais que tu peux le faire, tu vas peut-être pas forcément le faire. Ça dépend qui est-ce qui est en face de toi. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un que tu connais bien. Et ça dépend de l'enjeu. Enfin, on intègre, en fait, je pense, ces questions-là qui se combattent entre le fait de vouloir marquer aussi. Alors que dans un club, institutionnel, et quand tu grandis là-dedans, les autres questions n'existent pas, quoi. Et du coup, tu vas juste straight au point, quoi.